désir de tout chrétien, c'est de servir le Seigneur. Si un chrétien ne désire pas servir le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on l'a dit, nous sommes sauvés pour
servir.
Pas été sauvés pour chômer, mais pour servir. Parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il faut bien réaliser cela. Combien de chrétiens encore maintenant disent « Moi, je ne sais pas ce que je dois faire. » Mais comment tu ne sais pas? Tu as un talent. Les uns, c'est pour... Quand on parle de certains chrétiens, ils savent accrocher des âmes. C'est un don, ça, vous êtes d'accord?
Oui.
Ils savent accrocher. D'autres sont plus timides. Prier. Ou ils savent faire autre chose. Mais chacun ici peut faire quelque chose. Amen. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. Ne dites surtout pas. Dans un domaine, vous avez une facilité que les autres n'ont pas. Soyez humble, assez humble pour le découvrir, et assez obéissant pour l'accomplir. Amen. Ne l'oubliez pas. Le Seigneur a été très sévère à l'égard de celui qui n'avait qu'un talent et qui a dit, moi j'ai qu'un talent, ça ne vaut pas la peine, comparé à celui qui en a cinq et deux, je suis un minus, alors que celui qui avait un talent, d'après certains commentateurs, c'était une très grosse somme. Si le cinq et deux talents c'était beaucoup, un talent c'était une somme énorme, donc il n'y avait rien d'humiliant. C'était pas un petit talent, comme on dit souvent, un petit talent. Mais le talent, ça représentait une grosse somme à ce moment-là. Donc le Seigneur ne se moque pas de nous, il ne se moque pas de toi. Il t'en donne assez pour que tu puisses commencer quelque chose pour sa gloire.
Amen, amen, amen.
Ne l'oubliez pas, vous aurez des comptes à rendre. Et qu'il va vous dire, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Ne l'oubliez pas, ça. Le désir de tout chrétien doit être de servir son Seigneur.
Amen.
Comment pouvons-nous rester insensibles devant un tel amour? Comme je le dis souvent, ceux qui ont eu cette vision de la mission au dernier siècle, avec les Moraves dont on parle, les Moraves, avec ce comte, un comte Zizendorf. Un jour, il se promenait dans une galerie de peinture, et là, il a vu le tableau du Christ crucifié. Et sous ce tableau, il y avait cette inscription, « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Non pas pour être sauvé.
Non.
Mais une fois que...
Une fois sauvé.
Qu'as-tu fait pour moi?
En retour.
Et cette parole a été comme une flèche dans son cœur. Il a dit, Seigneur. Et c'est là qu'il s'est reconsacré et qu'il a fondé ce mouvement missionnaire. Des Moraves dont on parlait. Et qui sont allés dans le monde entier d'alors. En mission.
Grande mission.
Et qui prenaient des bateaux, les paquebots. Et ils prenaient les places les plus humiliantes dans les bateaux parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Alors, ils étaient comme des esclaves, là, pour aller prêcher l'évangile. Ils ont passé par toutes les humiliations. Rien ne les arrêtait. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Nous devons penser à ces choses. C'est très important. C'est pas... Là-haut, qu'il faut dire, ah oui, je n'ai pas assez réfléchi. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. J'aurais dû réfléchir, c'est maintenant. J'ai une pensée ici, avant de vous lire quelques textes. Votre vie, c'est le don que Dieu vous a donné, votre vie. Ce que vous en faites, c'est votre don à Dieu. Je répète. Votre vie, c'est le don que Dieu nous a donné. Mais ce qu'on fait de notre vie, c'est le don. C'est notre don à Dieu. Dieu nous a fait un don en nous donnant la vie. Mais nous, ce qu'on fait de notre vie, c'est notre don à Dieu. Si on n'en fait rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne donne rien à Dieu. Allons-nous nous présenter les mains vides là-haut, à celui qui nous a tant aimés, et pourtant qui nous a donné les talents qu'il faut pour pouvoir lui présenter quelque chose. Une autre pensée, celui qui offre à Dieu la seconde place ne lui offre pas de place du tout. Je répète. Celui qui offre à Dieu la deuxième place ne lui offre pas de place du tout. Si Dieu est Dieu, il doit être le premier en tout. N'est-ce pas vrai? Le premier commandement est le plus grand, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Quand il y a cela, tout le reste change.
C'est ça.
Toute notre vie après change. C'est comme si on était branché. Le courant vient. C'est comme si il y a un canal, qu'on branche ce canal, ce tuyau à la source. À partir du moment où on met ça à la source, oh, ça coule. Mais si le canal n'est pas orienté vers la bonne source, la source coule. Mais tout est perdu. Parce que nous n'avons pas brancher notre vie, donner notre vie entre les mains du Seigneur. Celui qui offre à Dieu la seconde place ne lui offre pas de place du tout. Si Dieu est Dieu, c'est la première place qu'il faut lui donner.
Amen.
Écoutez, c'est pas seulement pour Dieu que cela est vrai, mais c'est pour nous-mêmes. Parce que si Dieu n'a pas la première place dans notre vie, nous serons malheureux. Vous serez malheureux. Parce que rien d'autre ne pourra satisfaire votre cœur en dehors de Dieu.
Oui,
n'est-ce pas vrai? Rien d'autre. C'est lui. Vous avez été créé par lui et il n'y a que lui qui peut satisfaire les aspirations les plus profondes de votre âme. Donc ce n'est pas lui qu'il faut fuir. Il faut venir à lui. Il est la source de la vie et de tout ce dont tu as besoin. Toutes mes sources sont en Dieu, en toi. Et plus il prend la première place, plus nous aurons envie de lui donner cette première place. Parce que nous goûterons combien il est bon. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et j'ai une pensée qui va avec ce que je viens de vous dire. L'herbe est toujours verte au cœur de la volonté de Dieu.
Ça, c'est beau.
Alléluia. L'herbe est toujours verte où?
Au cœur de la volonté de Dieu.
Ah, c'est parfait. Au cœur de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être au sein d'une grande tempête, d'une grande tourmente. Et on sait bien qu'au sein de la tempête, il y a un point central qui est toujours dans la paix parfaite. La tourmente, la tempête peut être là, mais au cœur de cette tempête, il y a un repos, un parfait. Calme parfait.
Quand on est dans la volonté.
Voilà, dans la volonté du Seigneur.
Dieu, c'est pareil.
Et quand on est dans la volonté de Dieu, c'est exactement la même chose. Alors, nous avons tout à perdre si nous ne nous donnons pas entièrement au Seigneur. On a tout à perdre. Et on passe une vie chrétienne malheureuse, lamentable. Et c'est pourquoi, comme je le dis souvent, beaucoup de chrétiens, ne s'étant pas donnés entièrement au Seigneur, ils vont partout, vous avez remarqué, Et qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Comme leur vie est comme un sac percé, comme le Seigneur n'a pas la première place, eh bien, ils ne seront jamais satisfaits. De tout ce qu'ils recevront, tout ce qu'ils recevront des hommes, seront une déception profonde pour eux. Ils pourront courir partout et ils n'auront rien. Seul Jésus peut satisfaire pleinement une âme. Amen. Alors nous allons voir maintenant ce message, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça, c'est le message. Le titre du message, c'est ça. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça, c'est le titre. Et la consécration, c'est justement ôter nos mains de ce qui appartient à Dieu.
Oh, wow.
La consécration, c'est ça. C'est ôter nos mains de ce qui appartient à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, ben t'as intérêt à ne pas toucher ce qui lui appartient. Donc logiquement, tu appartiens à Dieu. Mais si tu vis pour toi-même, le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens tristes. Vous appartenez au Seigneur. Mais si vous vivez pour vous-même, le Saint-Esprit n'est pas content, vous. La Bible dit qu'on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui voudrait nous pousser toujours à nous donner davantage au Seigneur et à nous dire, mais ne vis pas pour toi-même, vis pour ton Sauveur. Et tu goûteras une vie que tu n'as jamais connue. Prenons maintenant un texte ou deux pour justifier notre passage. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. On peut lire toujours un petit peu, oui, le contexte un peu. Ça fait toujours du bien de lire un peu dans le contexte. 1 Corinthiens 6. On va lire à partir du verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Et qu'est-ce que vous avez après?
Vous en
appartenez point. Ah voilà, le titre de mon message, il est là, vous avez vu? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voilà, le titre de mon message est là. Et ensuite? Car vous avez été
racheté à
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et quand tout ce qui a... Vous appartenez à Dieu. Et si on appartient à Dieu, on doit faire attention à ce qui appartient à Dieu.
Oui, c'est ça.
Vous êtes gérant de ce que Dieu vous a donné.
Amen.
Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Un gérant, il gère les affaires de quelqu'un d'autre.
Amen.
Et quand vous dites, moi je fais ce que je veux où je veux, c'est un non-sens. C'est le païen qui parle comme ça. Mais un chrétien ne peut plus parler comme cela. Il ne s'appartient pas à lui-même. Même son corps, c'est pourquoi son corps aussi, il y a le temple du Saint-Esprit, il ne doit pas les détruire par quoi que ce soit. Là, le péché, c'était quoi? La débauche? La fornication? Avoir des relations alors qu'on n'est pas marié? Puis il y en a qui sont mariés qui ont aussi des relations. Ça c'est encore une autre souillure et un péché grave, l'adultère ou la fornication. Mais autre chose qui détruit le corps de quelqu'un, d'un chrétien, c'est la cigarette. Même dans le monde maintenant, sur les paquets de cigarettes, en France, je ne sais pas si c'est ici comme ça, en gros c'est marqué, la cigarette tue.
Oui, c'est connu.
C'est vrai.
Et il y a des pasteurs qui ne disent rien là-dessus. Ils laissent leurs chrétiens mourir.
C'est grave ça.
Ils devraient être condamnés parce qu'ils sont, ils ne vont pas à l'aide de personne en danger.
J'ai passé près d'une église, si vous me permettez, chrétienne, pas dernièrement, puis il y avait à la porte...
Ah oui, 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 on l'a vu ça.
On est allé dans l'église ici.
On est allé.
Où il y a un cendrier grand comme une boîte aux lettres, avec des trous.
Voilà. Vous vous rendez compte? Votre corps, mon corps, est pour...
Appartient au Seigneur.
Est-ce qui appartient au Seigneur doit être consacré, doit être sanctifié? On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas. Si quelque chose détruit mon corps, le détruit, je dois faire attention. Je dois l'éliminer. Ah, certains. Regardez. Ah, mais ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. Regardez. Regardez, quelqu'un qui raisonne comme cela. Mais c'est écrit qu'il ne faut pas détruire ton corps. Et si la cigarette détruit ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu pêches. Donc, vous voyez, on peut avoir un raisonnement tordu pour justifier notre péché, nos vices et nos passions. Et dites-moi, puisqu'on parle de cela, un chrétien qui fume, vous croyez qu'il a un beau témoignage? Dites-moi un petit peu. Essayez de témoigner à quelqu'un avec la cigarette au bec. que Jésus est mon sauveur. Tu sais, j'ai donné mon cœur au Seigneur il y a 10 ans à peu près. L'autre, il est là. Et tu sais, c'est merveilleux quand on donne sa vie au Seigneur. Oui, extraordinaire. Vraiment, être un chrétien, c'est... Vous croyez que ça va aller loin, ce témoignage? Vous croyez que ça va aller loin? Et en plus, vous sortez votre paquet de cigarettes où c'est marqué dessus « La cigarette tue ». Et l'autre, il regarde ça de temps en temps et t'écoute. « La cigarette tue ?» Il est en train de me parler comme ça du Seigneur. Il est en train de se tuer. Il veut que je me tue avec lui ou quoi? Où est-ce qu'il veut m'entraîner, celui-là? C'est une personne dangereuse. Parce que s'il est chrétien et qu'il peut fumer, alors moi aussi, finalement, puisque c'est ma passion aussi, je peux me convertir et continuer de fumer. Et si c'est la cigarette qui tue, alors c'est un faux témoin, celui-là. Il me dit des mensonges.
Je ne peux pas le croire.
Je ne peux pas le croire, c'est un hypocrite. Vous voyez jusqu'où ça va?
Ça va très loin. Ça.
On peut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors il faut, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça c'était le premier verset. Mm-hmm. Je vais vous en donner un autre. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Mm-hmm. 2 Corinthiens, à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Voyez-vous comme il voulait vraiment glorifier le Seigneur Paul, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Et si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles?
Ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Encore une fois, on ne s'appartient pas à soi-même, on ne vit pas pour soi-même, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voyez-vous? Non seulement vous ne vous appartenez pas, mais maintenant, votre vie doit être une vie vécue pour le Seigneur. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Et il y a tant de chrétiens maintenant égoïstes, égocentriques, où l'on tourne tous autour de soi, n'est-ce pas vrai? Les chrétiens, bénis-moi. Chaque fois qu'ils pensent à Dieu, c'est toujours pour être béni. Quand Dieu les bénit, c'est Alléluia, il crie très fort. Mais quand Dieu les bénit pas, c'est terminé. Vous ne les voyez plus. Tout est centré sur eux-mêmes. Ils lisent la Bible à l'envers. Pour eux, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Ils ont lu la Bible à l'envers. Donner plus de joie, ça, ils ne connaissent pas. Et c'est là que nous devons bien mettre en place nos priorités. Encore un dernier passage, Romains 12, les deux premiers versets. Je vous exhorte, c'est un appel à la consécration et au service de Dieu. Romains 12, les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le mot culte veut dire ici une adoration raisonnable. L'adoration que nous offrons à Dieu dépend aussi de notre vie, de ce que nous faisons, de notre vie, de notre corps. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen.
Regardez un peu plus loin. Par la grâce qui m'a été faite, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voyez-vous? Chacun. Dieu a départie à chacun une mesure de foi. Donc, ce qui veut dire, Dieu a donné quelque chose pour pouvoir glorifier le Seigneur et pour pouvoir être utile au corps de Christ.
Amen.
Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction.
Amen.
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque les dons, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Alors là, il y a plusieurs dons, voyez-vous. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et regardez après. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous avez vu ? Il y a un ministère qui est là. Donner. Et qu'il le fasse avec libéralité. Ah bon, j'ai cru que moi, ce n'était pas un ministère, ça.
Et si.
Et tout le monde peut donner même un petit verre d'eau. Puisque le verre d'eau même sera
récompensé.
Alors vous voyez que personne n'est exclu ici.
Personne.
T'as pas un verre d'eau à la maison? On a tous un verre d'eau. On a tous quelque chose. Que celui qui donne... Il parle des ministères, là, des dons. Des dons, plutôt.
C'est un ministère.
Voilà. Ça devient un ministère. Quand on le fait pour le Seigneur.
Voilà.
Mais je veux dire, vous voyez, que celui qui préside le fasse avec zèle, hein, tout le monde, bien sûr, n'a pas ce don de présider une réunion.
Non, mais...
Ça, c'est sûr. Il faut reconnaître chacun ses dons.
Oui. Mais il peut
et
y
que
avoir
celui...
sa maison, il peut y avoir, avoir le ministère d'hospitalité, il peut y avoir différents ministères.
Et que celui, regardez chacun après, qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. La miséricorde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut pratiquer la miséricorde autour de nous. Alors oui, les dons sont là, tous. Nous pouvons le faire. Le Seigneur nous dit, lis cela, les dons sont là.
C'est vrai.
C'est tout simple.
Il y en a pour tout le monde. Hein.
Il y en a pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Et je dis bien, je le répète, personne là-haut ne pourra dire, je ne savais pas. Je ne savais pas, j'avais rien. Ne dites pas ça là-haut, parce que alors là, vous allez faire tirer les oreilles des deux oreilles, là. Là, c'est les deux qu'il va vous tirer, spirituellement parlant.
C'est vrai.
Parce qu'alors là, vous risquez de l'irriter, le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il a dit, méchant serviteur, tu savais qui j'étais, et tu n'as pas fait, tu n'as pas agi selon ton idée.
L'idée que j'avais en toi.
De l'idée que tu avais de moi.
Oui, c'est ça. C'est lui qui met ces idées-là en nous. Mais il faut écouter, il faut obéir.
Vous voyez ?
Amen.
Ça, c'est important. Même donner. Qu'il le fasse avec libéralité. Ça veut dire que ne le fais pas à contre-cœur. Quand tu donnes, donne au Seigneur. C'est d'abord au Seigneur qu'on donne, avec libéralité. Voilà, puisque c'est au Seigneur qu'on donne.
Voilà.
Alors on le fait plus facilement. Et comme on le fait au Seigneur, on recevra du Seigneur la récompense. Si tu le donnes aux hommes, tu auras la récompense des hommes. Pourquoi ? Tant que son problème de péché n'est pas réglé.
Voilà.
La racine est là. La racine, l'origine est là. Et la première des choses que l'hélicoptère divin est venu amener, je suis venu vous sauver. Vous êtes dans cet état-là, dans ce sable mouvant qui est comme un péché. C'est qui est votre péché? Et vous n'en sortirez pas. Il vous faut une intervention extérieure, miraculeuse. Et Noël, c'est ça. Une intervention miraculeuse.
Alléluia.
Et Jésus nous tend cette corde encore, nous jette cette corde et dit, attrape, accroche-toi, arrête de dépatouiller, tu t'enfonces davantage, sans moi, tu ne peux rien faire,
voilà.
Attrape cette corde.
Dit
Jésus, je ne peux pas me sauver, je suis perdu. Sauve-moi!
Voilà.
Instantanément, la corde est là.
Ah, oui.
Tu vois une petite corde qui vient, Patrick? La corde est là! Qui s'appelle Jésus.
Ah.
Jésus, ah oui!
Amen.
Attrape-la!
Amen.
Dès que tu l'attrapes,
oui. Tu
sens que tu sors de
ce
sable.
Ce bourbier.
Quelle délivrance! Quel soulagement! Quelle délivrance!
Quelqu'un qu'on sort du sable mouvant, c'est une expérience unique. Celui-là, il s'en rappellera
toute sa vie.
Il ne peut pas l'oublier. Et quand Jésus nous sauve de nos péchés, c'est une expérience unique dont on se rappelle toute
la vie.
Amen.
Oui. Oh oui.
Voilà. Vous voulez le reste ou quoi?
Oui.
Ah bon, d'accord. Je vois que vous êtes bien. Troisième but. Alors, premier but, c'est quoi? Pour nous sauver de nos
péchés.
Ensuite, deuxième but pour... Avec Dieu. À cause de quoi? Du mot Emmanuel. Le premier, c'est Jésus. Et ensuite, Emmanuel. Et maintenant, on va trouver un autre nom, un peu plus bas. Chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, vous allez voir un autre nom qu'on lui donne. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le
roi des Juifs?
Ah, on parle d'un roi maintenant. D'un roi. Jusqu'à présent c'était Jésus, ensuite Emmanuel, et maintenant un roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un roi maintenant. Troisième but de sa venue. Un roi, c'est fait pour quoi?
Pour régner.
Pour régner sur notre vie. Troisième but de la venue de Jésus, il est venu pour régner sur notre vie.
Amen.
Régner. Une fois qu'il nous sort de cette... de ce sable mouvant. Est-ce que vous allez recommencer la semaine prochaine? Hein? Vous allez encore vous approcher de tout cela? Non. Quand vous verrez ça, quelqu'un te dit, viens, on va s'amuser là-bas au bord de... Comment? Il y a le sable mouvant là-bas. Impossible. Impossible. Vas-y si tu veux, mais moi non, jamais.
Voilà.
C'est fini. Alors maintenant, où est le roi des Juifs? Ce Jésus qui est notre sauveur et qui... nous permet de rétablir la communion avec Dieu, veut maintenant devenir notre roi. Il veut être celui qui règne sur nous. Si Jésus t'a sauvé, m'a sauvé, c'est pour que tu lui dises, Seigneur, tu es le roi, sois le roi de ma vie maintenant. Jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai voulu. Jusqu'à présent, c'était vous qui étiez sur le trône de votre cœur. C'était vous le petit roi.
C'est ça.
Et tant que l'homme veut faire son petit roi,
voilà.
Ça ne marche pas. Ce trône-là ne fonctionne pas.
C'est vrai.
Ce trône-là t'enfonce. Et le trône est tellement lourd qu'il t'enfonce encore davantage dans ce sable mouvant. Le moi est tellement lourd.
C'est
lourd le moi. Le moi t'enfonce. C'est lourd. Alors, avant tu étais le roi de ta petite vie, mais qui te détruisait. Et maintenant, tu dois accepter Jésus comme le roi de ta nouvelle vie.
Amen.
Pour te libérer, pour te transporter, et puis pour te donner une nouvelle vie. Amen. Il doit régner à partir de maintenant. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça, on le dit de tout notre cœur, sincèrement, pas du bout des lèvres. Combien disent, moi, je crois en Jésus, je vais à lui, je prie et tout ça, mais est-ce qu'ils obéissent au Seigneur? Voyez-vous que c'est tout du cinéma, tout du vent. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Si on ne lit pas sa parole, comment peut-on savoir ce qu'il veut de nous? Et les gens se portent persuadés qu'ils sont en ordre avec Dieu, alors qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Oui, comment l'homme peut s'illusionner? Ah, mais je crois, mais le diable aussi y croit. Et il sera perdu. Croire ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les pharisiens, les sacrificateurs croyaient, mais ils ont rejeté Jésus. Ils ont préféré leur religion à l'évangile.
C'est ça.
Et ils sont perdus. La religion ne sauve personne.
Voilà.
C'est Jésus qui sauve. C'est
son évangile. Seulement Jésus.
Alors, troisième but, nous le découvrons. Dans le titre de roi, pour régner sur notre vie. Voilà. Tu as vraiment compris le but de la venue de Jésus? quand tu dis maintenant, tu m'as sauvé de mes péchés, j'ai retrouvé la communion avec toi, maintenant règne sur ma vie. Amen. Seigneur, je suis à toi. Et quatrième but. On va descendre un peu plus bas. Verset 6, 5. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, voici ce qui a été écrit par le prophète. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira
un chef
qui pètera Israël, mon peuple. Ah, quelque chose de nouveau là maintenant. Un chef qui pètera. Il est question de pâture, de pêtre. Donc on peut penser à qui? À un
berger.
Voilà, un berger. Mmh. Quatrième but de la venue de Jésus, il est venu comme un berger. Maintenant que tu lui donnes ta vie,
Amen.
Il devient ton berger.
Amen, Seigneur.
Et un berger est là pour te nourrir, pour te conduire dans les verts pâturages, pour te diriger dans ta nouvelle vie, pour te donner un nouveau sens à ta vie. Voilà le quatrième but, pour te donner un nouveau sens à ta vie. Et tout ça se trouve dans le nom de berger. Un nouveau sens, il te conduit. Tu n'es pas sans but. C'est là la tragédie de la nature humaine, de l'être humain. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est et on ne sait pas où on va. Mais avec Jésus, c'est tout à fait le contraire. On sait où on va.
Le
berger.
Amen.
On est en direction du ciel. Pourquoi?
Amen.
On sait que c'est en direction du ciel. Parce que Jésus est celui qui est venu du ciel. Il connaît le chemin. Ah bon? Mais moi, je vais te montrer le chemin du ciel. Ah bon? Tu es venu du ciel, toi?
Oh,
je ne suis pas sûr que tu vas m'emmener au ciel.
Oh, ben,
est-ce que tu viens du ciel? Non, eh ben alors. Donc, tu ne connais pas le chemin qui va au ciel. Mais moi, je connais quelqu'un qui est venu du ciel.
Voilà.
Et lui, il me conduira au ciel.
Ah, ben, il vaut mieux suivre celui-là.
Et celui-là, c'est le berger.
Oh oui.
Il donne sa vie pour ses brebis.
Amen, amen.
De Jésus, quand il a commencé son ministère, et Matthieu 9, 36, il est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et
abattue
comme des
brebis
qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, 36. Voyez-vous comment Jésus voyait les gens? Comment il les voyait comme des brebis sans berger, languissantes. Languissante, c'est-à-dire que les brebis cherchaient toujours un espoir. Et ils mettaient leur espoir dans celui-ci, dans celui-là, un homme, une femme, une religion, languissante. Et ils espéraient, ah, ça y est, cette fois j'ai trouvé, ça y est, cette fois, c'est la réponse. Mais au bout d'un certain temps, pof, ça ne marche pas. Et abattu. Après les grands espoirs, c'est les grands abattements, parce qu'on est déçu. L'homme, si on met notre confiance en l'homme, nous décevra tout le temps. Il y en a un qui ne nous décevra jamais, c'est Jésus. Alors lui, jamais. Mais les hommes, ou toi-même, si tu mets ta confiance en toi, tu seras déçu.
Ah oui,
toi-même, tu es dans ton sable mouvant, ne l'oublie pas. Tu ne peux pas t'en sortir, tu as besoin de cet hélicoptère. Et Noël, c'est l'hélicoptère céleste qui est venu là. La corde est là maintenant. Et là, sur la corde, c'est marqué Jésus. Attrape cette corde. Il t'en sortira de ce sable mouvant. Il mettra tes pieds sur un sol ferme, sec, solide, le rocher des siècles.
Amen. Alléluia.
Là, tu ne seras pas ébranlé.
Oh, oui.
Et à partir de là,
oh,
Dieu te donnera un nouveau sens à ta vie.
Amen.
C'est ton Dieu, il a un plan pour ta vie. Oui. Un plan.
Gloire à toi, Jésus.
Merveilleux. Et si tu lui obéis, comme une brebis se soumet au berger, il te conduira dans ce plan merveilleux. Ne t'inquiète pas, il a un plan.
Oui,
sois,
amen.
Reste tout simplement près de ton berger, obéissant quand il te parle, faisant toujours, cherchant toujours à faire sa volonté, il te conduira, te ramènera. Si tu restes près de lui, tu aboutiras au plan que Dieu avait préparé pour ta vie.
C'est ça.
Et finalement,
c'est
un jour,
ça.
tu entreras dans la gloire.
Amen.
Car ce plan te conduit directement au ciel.
Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni.
Alléluia.
Quatre buts de sa venue. Vous vous en rappelez? Hein, Eva, tu t'en rappelles?
Ouais.
Eva, elle a bonne mémoire, Eva. Hein?
Oh oui.
Premièrement, dans le nom de Jésus, on trouve le premier but. C'était quoi?
Vous
sauver. Dieu. Du quoi?
Le péché.
Ah voilà, j'ai oublié le péché. Tu me sauves, oui, mais du péché. Tu l'as... C'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés.
Pas de ses petites faiblesses.
Non.
Pas de ses petites maladies. Pas de ses maladresses. Pas de ses complexes. De son péché. Et le péché, c'est la rébellion. Non, mais moi, je pense que c'est ça le péché.
Ça, le péché. La racine, ça.
Alors, deuxième but. Après, on, c'est dans le nom d'Emmanuel. Alors, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors, le deuxième but, c'était quoi?
La
communion. La relation. Une fois que le péché est enlevé, la communion avec Dieu est possible, est rétablie.
Voilà.
Troisièmement, c'est le nom de roi. Un roi,
eh ben, il
est fait pour régner. On est maintenant son sujet.
Voilà.
Comment peut-on être le sujet du roi quand on fait ce qu'on veut?
C'est ça, oui.
Ça marche pas, ça.
Pas
maintenant, tellement. Tu es dans le royaume de Dieu.
Voilà.
Tu es le sujet du roi.
Et voilà.
Tu dois dire maintenant, roi, majesté, me voici.
Oui,
pas seulement en parole, ça ne marche pas. Majesté, maintenant, je suis dans ton royaume. C'est ta volonté que je veux faire et non la mienne. Et sa volonté est merveilleuse. La volonté d'un roi.
Parfait.
La volonté d'un roi, vous vous rendez compte? C'est pas d'un mendiant. C'est pas d'un drogué. C'est pas d'un je ne sais quoi. C'est la volonté du roi. Donc c'est noble, c'est pur, c'est grandiose. Bon. Et quatrièmement, dans le nom de berger, on a trouvé le quatrième but. C'est quoi? Pour nous donner, pour donner un sens à notre vie, ou pour diriger notre vie, si vous voulez. On peut dire plusieurs choses. Pour diriger notre vie dans les plans que Dieu a préparés pour nous. Voilà, un berger. Et on a besoin d'un berger. Et le berger est toujours près de sa brebis. Et là, si la brebis reste près du berger, le berger sera toujours là.
Toujours.
Et il nous conduira. Et il ne nous abandonnera jamais.
Jamais.
Et il nous conduira jusque dans la vie éternelle. Et surtout, dans un travail, un ministère, une action qui convient à notre personnalité. À notre... Et c'est comme ça que nous serons heureux sur la terre. On sait pourquoi on vit et on sait pour qui on vit.
Voilà. Surtout.
Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre Paul. Bon, vous vous rappelez, tu te rappelleras. Hein?
Ouais.
Voilà. Alors, quatre buts de la venue de Jésus à Noël.
C'est beau.
Que le nom du Seigneur soit
béni. Amen, amen.
Allez, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Mm-hmm. Nous voulons la serrer sur notre cœur afin de faire ce que tu veux et non ce que nous voulons. Seigneur, merci pour cette lumière qui vient du ciel. Ce projecteur qui vient d'en haut et qui montre l'homme dans l'état dans lequel il est. Mais avec ce projecteur, tu montres l'état de l'homme. Mais tu montres aussi le cœur de Dieu. Tu es dans le sable, c'est vrai, mouvant. Mais je viens pour te sauver, non pas pour te condamner. Je viens pour te sauver. Quel amour, quelle libération.
Mm-hmm.
Et Noël, c'est cela. C'est Dieu qui vient nous sortir de notre péché, de notre égoïsme, de notre rébellion, pour faire sa volonté. Et sa volonté seule.
Alléluia.
Car nous avons été créés pour vivre en communion avec Dieu.
C'est vrai.
Et pour lui seul.
Ah.
À lui seul soit la gloire au siècle des siècles.
Des siècles.
Amen.
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 Et quand nous avons fait alliance avec Dieu,
merci,
qu'on a donné notre vie au Seigneur, et qu'on le laisse régner dans notre vie. Alors lui, il a fait alliance avec nous aussi. Nous, on fait alliance avec lui, mais ce n'est pas dans un sens seulement. Lui aussi fait alliance avec nous. Lui aussi nous répond. Lui aussi nous parle. Nous, on lui parle, on lui dit, on se consacre à lui. Et ensuite, quand on a donné les rênes de notre vie au Seigneur, après lui nous parle. Et voici une parole prophétique pour nous tous. Maintenant, le Seigneur nous dit, mes enfants, il nous répond, ah, vous faites alliance avec moi? Moi aussi, je fais alliance avec vous. Mes enfants, il nous appelle. Je vous appelle à bannir toute crainte de votre cœur. Toute crainte de votre cœur. Car je suis et demeure ce Dieu fidèle à ses promesses. Fidèle, juste et bon. Alors que dans ce monde, ses vertus ont disparu. Je vous appelle à vivre en tant que mes disciples, en purifiant chaque jour votre cœur de toute souillure, de toute tentation, de toute infidélité conjugale, de tout mensonge, de toute méchanceté, de toute injustice, de tout ce que moi j'appelle mal, dit
le... Oh, bénis-nous, Seigneur, non ! Faut dépasser ça ! On est là pour bénir le Seigneur et bénir les autres. À celui qui a, on donnera. Si tu as ça, tu auras toujours de quoi donner et bénir les autres. Un chrétien reconnaissant, qui rend grâce, c'est merveilleux. Des lèvres qui confessent. Mais le mot, c'est qui rend grâce. Confesse, ça fait un peu... On ne trouve pas la richesse du message derrière.
C'est ça.
Oui. Après les lèvres, qu'est-ce qu'il y a? Des lèvres, après c'est des seins. Ah, oh, voilà, ça va là, hein, après. Voilà. Après, il y a les...
Des bras ou des mains.
Les mains, les mains, les mains.
Les mains.
Les mains. Allons vers les mains. Des mains. La Bible parle de mains pures, d'avoir des mains pures. 1 Timothée 2,8. Alors, on l'a vu, hein, les lèvres, c'est en rapport avec un esprit de reconnaissance. Vous avez noté? Et maintenant, les mains pures, c'est en relation avec la sanctification. Des mains pures, des mains propres, c'est donc une vie pure qui marche dans la pureté. 1 Timothée 2,8. 1 Timothée 2,8. Voici ce qu'il est dit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des
mains
pures sans colère ni mauvaise pensée. Alors ici, il y a le message des mains pures, ça veut dire une vie sanctifiée. Si on lève les mains pures dans la prière ou la louange avec une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, on déshonore le Seigneur. C'est pourquoi quand on s'approche de Dieu, il faut toujours purifier son cœur, son âme, marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière comme il est, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus, son Fils continue de nous purifier de tout péché. C'est important la sanctification. L'Esprit qui est en nous. Le premier caractère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la sainteté. N'oublions pas que le mot Saint-Esprit a le mot Saint dedans.
Eh oui.
Avez-vous remarqué, dans certains milieux où il y a toutes sortes de manifestations, qu'on dit qu'ils viennent de Dieu, il part toujours de l'Esprit, mais pas du Saint-Esprit. L'Esprit a fait ceci, l'Esprit a fait ça, l'Esprit ceci, l'Esprit...
Même l'Esprit de Dieu,
il est... Oui, même pour l'Esprit de Dieu, il part, mais il ne dit jamais le Saint.
Mais pas Saint-Esprit. Ah oui, c'est frappant ça.
C'est frappant ça. Remarquez-le. Parce que s'il prenait le mot Saint-Esprit, déjà, il serait repris.
Oui.
Et il ne ferait pas des choses qu'ils font si vraiment ils croyaient que l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint. Mais quand vous dites l'Esprit, la sainteté n'est pas incluse dedans, l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. L'Esprit.
Ça peut être un autre esprit aussi.
Ah bah oui, et c'est souvent un autre esprit.
D'ailleurs,
mais c'est un esprit qui nous fait faire n'importe quoi. Parce que nous n'avons pas la notion que l'Esprit de Dieu est un esprit
saint.
Ne l'oublions pas. Si vous voulez avoir une vie bénie par le Seigneur, il faut marcher dans la sainteté. Rechercher la sanctification sans laquelle ne verra le... C'est important. 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 Ne l'oublions pas. Relever des mains pures, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il faut que notre témoignage soit un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et pour terminer, septièmement, on arrive ici. qu'est-ce que... Ah oui, alors...
C'est sixièmement.
Ah, sixièmement, pardon. Ah oui, 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 oui. Sixièmement, voilà. Alors après, on descend là un peu. On arrive là, un peu en bas, là. Ici, c'est les reins. La Bible, voilà, la Bible parle de reins saints. De reins saints. Luc 12, 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui... attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il apparaîtra et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ici, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Les reins saints, c'est en rapport avec le retour de Jésus. Nous devons tout faire dans cet esprit que Jésus revient. S'il revenait aujourd'hui, où en serais-je? Que ferais-je? Est-ce que je peux encore faire ce que je fais si Jésus revenait aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas changer certaines choses? Est-ce qu'il ne faut pas que je me secoue un petit peu?
C'est vrai.
Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient améliorées en moi? Que vos reins soient saints. Autrement dit, c'est l'image de quelqu'un qui se tient prêt pour partir. Vous savez que dans l'ancien du temps de Jésus, les gens avaient des grandes robes, n'est-ce pas? Et alors, quand ils devaient partir pour un voyage, ils devaient ceindre leurs vêtements pour pouvoir marcher plus librement. C'est cette image qui est là. Donc, ils devaient partir pour un voyage. Et nous, un grand voyage nous attend. Et spirituellement parlant, nous devons ceindre notre robe pour dire maintenant, il faut que je sois prêt pour ce départ et que je dois tout faire pour que quand il viendra, je puisse partir. Qu'il n'y ait rien qui m'encombre. Quelqu'un peut-il courir avec une longue robe? Non, pas du tout. Au bout d'un certain temps, la personne tombe par terre. Donc, on doit tout faire pour alléger notre course. Tout faire pour pouvoir marcher librement et être prêt lorsqu'il reviendra. Que rien ne vienne nous arrêter, nous encombrer. C'est pas seulement des péchés, mais il y a des choses qui sont inutiles dans notre vie. Souvent, on parle au péché qu'on doit enlever, naturellement. Mais pas seulement le péché. Écoutez-moi bien, il y a des choses, des habitudes, des traditions, ou des choses qu'on fait, mais qui sont inutiles et qui nous empêchent vraiment de faire ce que Dieu nous demande. Ne perdons pas notre temps avec des choses inutiles. Nous devons racheter le temps.
Amen.
Et faire en sorte que tout ce que nous faisons soit vraiment pour avancer le royaume de Dieu. Et que notre vie le glorifie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas
utile.
Voilà, c'est ce passage que je veux. Oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On peut faire ça. Oui, bon, Seigneur me permet. Oui, mais si c'est pas vraiment utile, enlève-le. Enlève de ta vie. Fais vraiment ce que Dieu attend de toi. Ne perds pas ton temps. Le temps est court. Le temps passe vite. Regardez comme une année après l'autre, ça passe vite. Les journées passent vite. Le Seigneur revient, est-ce que tu es prêt maintenant? Tes saints, tes reins saints. Et pour terminer, les pieds, des pieds zélés pour le service. Éphésiens 6, 15. Éphésiens 6, 15. Qu'est-ce que vous avez? On a là. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà. L'évangile de paix. Prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors ici, les pieds sont en relation avec le zèle. Donc avec l'évangélisation et le service pour Dieu. L'évangélisation. Le zèle que nous donne l'Évangile. On doit tout faire pour annoncer l'Évangile et servir le Seigneur. C'est important. Vos pieds, sont-ils zélés pour le Seigneur? La Bible parle qu'il y en a qui sont zélés pour faire le mal, n'est-ce pas vrai? On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Mais nous, nos pieds doivent être zélés pour faire l'œuvre de Dieu. Zélés. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. N'est-ce pas merveilleux? Quand quelqu'un vient avec nous pour nous annoncer la bonne nouvelle, c'est la chose la plus merveilleuse. Que nous soyons de ces gens-là. On a fait une bonne petite inspection. Hein. Mais donc, nous avons tous du travail à faire. Ça finit par les pieds et ça finit par le service. L'amour des âmes. l'Évangile. Mmh. Ne perdons jamais cet amour des âmes. Mmh. Un chrétien est quelqu'un là. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous allions aussi sauver les autres.
C'est vrai.
Nous ne devons pas oublier cela. Mmh. Oublier cela. Oui, et c'est quand vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surnant sur vous, et vous serez aimé. Témoin. Voyez-vous, la puissance que Dieu nous donne, du Saint-Esprit, c'est pour témoigner. Si vous voulez que la puissance de Dieu agisse dans votre vie, témoignez, vous verrez. Vous en avez fait certainement l'expérience, quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, tout de suite vous voyez que le Seigneur est là, il vous aide. Vous êtes surpris même de dire des paroles que vous n'aviez pas pensé donner. Vous êtes surpris, ça vient. Eh bien, c'est ça. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surnant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est là, il n'attend qu'une chose, que vous parliez, que vous cherchiez à sauver des âmes, et à servir aussi. Et servir ton frère, ta sœur, comme le Seigneur nous conduit.
Oui.
Mais il faut qu'il y ait ce zèle. Le zèle de sa maison me dévore.
Ah.
Que nous puissions avoir tous des pieds zélés et un cœur bouillant pour le Seigneur. Un cœur bouillant pour le Seigneur et pour son service et pour sa gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette inspection que tu as permis que nous ayons. Nous voulons vérifier si tout est en place, si tout est en bonne santé, si certains membres sont malades. Seigneur, nous voulons apporter le baume qu'il faut. Ou enlever les plaies, penser les plaies qu'il faut, ou les abcès. Parfois, il y a des abcès.
C'est vrai.
Que nous devons crever, percer, pour que la plaie guérisse.
Oui, aide-nous.
Seigneur, il y a tant de choses. Il y a les plaies, il y a les abcès, il y a les fractures, il y a tant de choses. Il y a des blessures.
Oui.
Nous voulons, Seigneur, selon ta parole que tu nous as donnée, guérir tout cela, corriger tout cela, afin que nous soyons en bonne santé. Car un soldat en bonne santé est un soldat qui pourra aller à la victoire, dans un esprit de victoire. Mais un soldat malade est déjà perdu d'avance. Un soldat malade, que peut-il faire? Il n'ira pas loin. Seigneur, si tu veux qu'on lutte, c'est comme un athlète qui est malade. Comment peut-il remporter la victoire? Comment peut-il défaire son ennemi ou son adversaire s'il est malade? Il n'y a que celui qui est en bonne santé qui peut remporter la victoire, spirituellement parlant. Seigneur, fais que nous le soyons ainsi.
Jésus.
Spirituellement, que nous soyons en bonne santé.
Jésus.
Plein d'Esprit Saint et de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Nous voici, Seigneur.
Oui.
Purifie-nous, lave-nous. Nous voulons nous humilier devant toi pour tout ce qui t'a déshonoré.
Oui.
Mais nous voulons t'offrir nos vies, nos corps,
échanger
afin que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse.
Oui, amen. Amen.
Et
amen.
Que seul ce qui est de toi demeure.
Amen.
Et que l'on puisse te voir en nous.
Seigneur, amen. Le Seigneur m'a donné cette pensée complémentaire qui entre tout à fait dans le sujet. Voici ce qu'il veut nous dire ce matin. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain.
Amen.
Alléluia.
C'est ça qu'il veut nous dire. Attelons-nous. Mettons-nous à la tâche que le Seigneur attend de nous. Et je vais partager avec vous, le Seigneur m'a mis à cœur cela déjà il y a plusieurs jours, que ce matin il fallait faire cela. Le Seigneur m'a donné il y a quelque temps, je ne me rappelle plus quand exactement, mais ces derniers mois, peut-être années, je ne sais plus, une vision du maître dans son atelier. Nous sommes ses instruments. J'ai vu un atelier dans lequel le maître faisait différentes choses avec ses instruments. Nous sommes les instruments du Seigneur et il veut nous forger à son image afin que nous devenions des disciples accomplis et afin qu'il puisse accomplir son plan au travers de notre vie. Et voici ce qui se passait dans l'atelier du Seigneur. C'est une vision que je peux encore voir dans ma tête, dans mon cœur. Dans un coin de l'atelier, il façonnait de nouveaux instruments et les préparait à entrer à son service. C'était le coin où il préparait les instruments. Dans un autre coin de l'atelier, il en aiguisait d'autres pour les rendre plus efficaces.
et les affûtait. Il travaille en nous, le Seigneur. Alors l'un les a, il les prépare, les autres, il les affûte. Dans un troisième coin, il réparait les instruments défectueux pour les remettre en service.
Wow.
C'est beau, ça.
Oui.
Parce que même si on est un peu défectueux, ne nous décourageons pas. Entre les mains du maître, il peut réparer ça. Il est assez puissant pour réparer ça. Dans un autre coin, il améliorait certains instruments, leur ajoutant des pièces pour les rendre capables de faire de nouvelles choses, jusque-là impossibles pour eux. Dans un autre coin encore, il mettait de l'huile dans les rouages aux instruments qui grinçaient. Des fois, on grince un peu. Afin qu'ils ne dérangent plus quand ils travaillent avec eux. Dans le but que leur travail se fasse sans bruit et plus facilement. Dans un dernier coin, il choisissait des instruments qui lui avaient déjà été utiles et qu'il qualifiait maintenant pour un nouveau travail qu'il allait leur confier. Le Seigneur attend de nous tous ces instruments, que nous lui demandions la force et la sagesse pour accomplir l'œuvre, la tâche qu'il nous a confiée. Puisse chacun de nous servir le Seigneur fidèlement, veillant constamment, de peur d'échouer et de décevoir le Maître. Le disciple du Seigneur doit être l'ouvrier le plus respectueux et le plus loyal sur cette terre. Puissions-nous accomplir sa tâche avec enthousiasme, joyeusement et avec l'espérance de recevoir un jour non l'approbation des hommes mais la sienne. Alléluia Seigneur, trouve en nous cette obéissance que tu attends de chacun de nous. Nous voulons nous livrer entre tes mains de maître afin que tu façonnes en nous cet instrument avec lequel tu peux faire ton œuvre et qui te soit utile et qui soit efficace entre tes mains, Seigneur. C'est cet instrument efficace que nous voulons devenir, qui réjouira ton cœur, qui sera utile aux autres et qui sera une bénédiction pour une multitude. Donnons, comme il a été dit, ce que nous avons reçu. N'enterrons pas nos talents. Quel qu'il soit, une couturière, elle peut coudre pour le Seigneur. Une cuisinière, elle peut cuisiner pour le Seigneur. Un écrivain, il peut écrire pour le Seigneur. Il y a tant mille et un ministères qu'on peut exercer. Il y en a assez pour tout le monde. Mais faisons ce que Dieu nous a donné. Travaillons déjà avec les talents que Dieu nous a donnés. Mettons-les au service de Dieu et lui les multipliera. Il en ajoutera. Nous avons vu ça dans notre vie à tous les deux. Lui aussi, il a commencé avec 5 pains et 2 poissons. Moi aussi, je peux en dire autant. Je peux dire que le Seigneur a multiplié les talents. Il m'a fait découvrir des talents que je ne savais même pas que j'avais. Ça, je rends gloire au Seigneur, seulement à lui. Mais c'est en donnant et en travaillant que ces choses-là vous sont découvertes et vous sont révélées. Si vous ne faites pas, si vous ne donnez pas, il ne vous donnera rien de nouveau et rien de plus. Nous avons la responsabilité de nous donner entièrement au Seigneur. Et maintenant, une parole pour vous deux là. Vous deux là. Écoutez-moi mes enfants que j'ai appelés. C'est moi. Moi qui suis le premier et c'est aussi moi qui suis le dernier dans votre vie. Je veux être le premier et le dernier. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le Seigneur va vous indiquer, va vous ouvrir le chemin et va vous montrer de nouvelles choses à faire. Puisque vous êtes disponible pour lui. Alors, recevez cette parole, c'est dans Ésaïe 48, 12, au verset 12 et au verset 17. Et puis, pour d'autres personnes au milieu de nous,
toi qui te sens incapable de faire quoi que ce soit face à ce problème qui est devant toi, je voudrais t'apprendre à te confier en moi, au tendre soin de ton Père Céleste. Je te donnerai alors cette paix qui surpasse, non seulement qui surpasse toute intelligence, mais celle qui triomphe aussi de ton anxiété. Tu réaliseras alors qu'entre mes mains, tu peux être calme et sereine. Il s'agit donc d'une dame. Dirige tes pensées vers moi et tu seras parfaitement rassuré et à nouveau dans la paix,
oui,
te dit le Seigneur. Et pour une personne au milieu de nous, dans une situation qu'elle ne comprend pas, le Seigneur te dit, mon enfant, les faits ou les faits que tu connais ne représentent pas tous les faits. Ta vision des choses est limitée, te dit le Seigneur, la mienne est illimitée. Je vois, moi, ce que toi, tu ne peux pas discerner. C'est pourquoi, laisse-moi te conduire par mon esprit, selon ce que moi je vois et je connais. Fais-moi confiance pour ce que toi, tu ne vois pas. Je suis ton Père Céleste qui t'aime et qui veut diriger ta vie, la garder et la planifier. Confie-la à moi et tu comprendras que rien ne t'arrive par hasard, que tout est préparé en détail pour toi selon un sens et dans un but précis que j'ai préparé pour toi, te dit le Seigneur. Et pour nous tous, au travers de chacune des épreuves que je permets dans votre vie, dit le Seigneur, réalisez une chose, que d'une part, lorsque je permets une épreuve, j'augmente votre courage, ce qui vous permet d'affronter des épreuves plus grandes encore, tout en vous assurant de ma présence, qui est ce constant réconfort et cette assurance qu'entre mes mains, vous vous en sortirez toujours vite vainqueur, et une fois de plus vainqueur, et que rien ne se jugera jamais au-dessus de vos forces, dit le Seigneur.
Amen.